Paraolostoc, chronique occitane, par Marie-Jeanne Verny.
Bonjour à toutes. Donc nous allons aujourd'hui consacrer une nouvelle chronique à l'édition par Claire Toreil des œuvres mêlées d'un baron de Caravette, Jacques Roudil, un ouvrage aisément disponible chez votre libraire, mais aussi sur Internet, sur le site des presses universitaires de la Méditerranée. Vous faites Pulme, Estudis Occitan, et vous tomberez sur le livre de Claire Toreil et sur les autres éditions de la même collection. Donc, Jacques Roudil est un baron de Caravette, baron des Caravettes. Les Montpelliérains vont comprendre, mais comme les auditeurs de FM+, ne sont pas tous Montpelliérains, je pense qu'il faudrait expliquer, Claire Toreil, s'il vous plaît, la dénomination de baron des Caravettes.
Alors, baron des Caravettes, c'était une expression ironique pour désigner les simples Montpelliérains. Ils se désignaient entre eux, comme cela, ceux du peuple qui n'avaient ni titre ni bien, justement, et qui, parce que Caravette était un bois qui appartenait à la commune, près du bois de Valennes. Il était donc la propriété de tout un chacun. D'ailleurs, la commune allait faire du bois pour différentes personnes dans le bois de Caravette. Alors, Roudil se dit baron des Caravettes. Par ironie, il me semble que c'est le premier à l'écrire et à revendiquer ce titre dans le titre de son livre. Et il dit. Je suis d'une petite noblesse, effectivement, il a des alliances avec la noblesse, ses parents ont des origines de petite aristocratie, mais ma vraie noblesse, c'est d'être baron des Caravettes, c'est de représenter la ville de Montpellier.
Donc, elle apparaît dans un poème de 1650, cette appellation.
Et en fait, elle apparaît un peu plus tard, quand il y a une enquête sur la noblesse de Montpellier. Mmh. Et il vient présenter ses œuvres en disant « Mon titre de noblesse, c'est mon œuvre. » Et le baron de Caravette, moi je suis baron de Caravette avec mon œuvre. Alors, avec cela, il revendique une forte identité montpelliéraine. Il dit « Je suis le fils de Montpellier. Je suis le poète de Montpellier. Je suis le fils de Montpellier. » Il y a un poème qu'il met d'ailleurs, un poème de 1650, qu'il met au début de son recueil, alors que dans l'ensemble, il suit l'ordre chronologique, mais celui-ci, il le met en ouverture. C'est un portrait de la ville comme sa mère, la mère de celui qui parle. Une mère féconde qui a de nombreuses descendances. Chaque fille, chaque garçon porte le nom d'une rue et en a le caractère. Alors c'est un portrait de la ville. Je vous lis un petit passage où il parle de ses sœurs. J'ai beaucoup de sœurs. C'est un éloge de Montpellier assez ironique, mais en même temps, plein d'une certaine tendresse. D'autres sœurs y avaient toute une boulegado. Antonio do Curau, Gian de l'Esplanado, Gracio do Plan de l'Homme, Francesa do Cannau, Mario de la Babotto, Anne de Castelnau, Lucie do Padestret, Beatrice do Pus de Ferre, che per lo sbun festin se fa pa mandacere, tant'è l'aima mangia crustados e turu. Voilà, c'est un endroit où on aimait manger les croustades et les tourons. J'ai encore toute une flopée d'autres sœurs. Antoine du Courau, Jeanne de l'Esplanade, Grâce du Plan de l'Homme, Françoise du Cannau, Marie de la Babotte, Anne de Castelnau, Lucie du Pas Étroit, Béatrice du Puy de Fer, qui pour les bons festins ne se fait pas prier tant elle aime manger, croustades et nougat.
Donc Roudil avait une maison à Montpellier.
Oui, et il habitait en haut de la rue Saint-Guillain. Il était voisin de la famille Ranchin. Quand il écrit ce poème de cet éloge de Montpellier, il vient de publier les œuvres d'Isaac d'Espuech.
Qui était, vous pouvez nous le présenter ?
Qui était lui-même poète de Montpellier. Alors, toute la première moitié du 19e, du 17e, d'Espuech écrit des poèmes politiques, des poèmes satiriques, des poèmes pastoraux, toutes sortes de poésies en occitan. En occitan, un peu en français, pas en latin. Mais c'est Roudil qui le publie le premier. Et donc, il prend la suite. Il y a ces deux grands représentants de Montpellier, d'Espuech et Roudil, dans la seconde moitié du 19e. L'image qu'il donne de Montpellier, c'est une image complexe. C'est ça qui est intéressant quand on édite une œuvre en suivant l'ordre chronologique. c'est qu'on voit bien l'évolution de la ville, l'évolution des mentalités, l'évolution des relations entre les protestants et les catholiques, bien sûr, et tous les problèmes sociaux et politiques qui se posent, parce qu'il les évoque dans des satires. Il est de plus en plus satirique à la fin de sa vie.
Et donc, il le dit dans son œuvre poétique, il y a ce caractère, cette vision des classes sociales de l'époque, de leur situation.
On voit monter une bourgeoisie de plus en plus riche, de plus en plus insolente, qui construit tous les hôtels qu'on connaît, la grande construction commence au XVIIe, qui est extrêmement arrogante, de plus en plus arrogante, et à côté d'un peuple de plus en plus écrasé d'impôts. Et lui aussi, il se met du côté de... Il appartient à la bourgeoisie, la petite bourgeoisie, et il souffre de cette... à la fois de la perte des valeurs et de la perte du pouvoir d'achat tout court. Plus, on le verra dans une autre émission, peut-être, la persécution religieuse.
Y compris chez les protestants, la perte des valeurs.
Y compris chez les protestants, la perte des valeurs, on en reparlera. Bon, alors il y a cette image de Montpellier qui est une image qui se dégrade, bon, mais une image assez réaliste et intéressante. Mais c'est quand même une ville où on s'amuse, une ville joyeuse, festive à tous les niveaux. Alors on voit les guinguettes au bord du Lez, à Boutonnet, où on fait les carnavals, les cafés à l'enseigne du Bouchon dans le centre-ville, les revues dont Roudil écrit le texte, qui sont très, très osées, l'esplanade qui existe déjà, mais sous la forme d'une sorte de terrain vague entre... la citadelle construite après le siège de 1622 et la ville elle-même. Et c'est un lieu de promenade pour le peuple, de rendez-vous galant, pour les grisettes. Le mot grisette, d'ailleurs, est extrêmement récent quand Roudil l'emploie. Il l'emploie grisette ou en occitan, grisette en français. Le mot est daté des années 1660. Alors il y a aussi, comme au lieu de Montpellier qu'on trouve dans cette œuvre, la Canourgue. Parce que la Canourgue, c'est un lieu de plaisir, mais alors de café, de débauche, pour une société beaucoup plus aisée.
Et il compare les dames et les grisettes.
Il compare les dames et les grisettes au bénéfice des grisettes, alors qu'il écrit beaucoup de poèmes Oui, il est très amateur de belles dames, mais les grisettes sont beaucoup plus piquantes, brunettes, tandis que les dames sont blanchettes.
Et il y participe à ce mouvement ?
À
ces mouvements de carnaval, de fêtes.
Il écrit pour le carnaval. Quand il y a des revues de carnaval dans les cafés, il en écrit. Il y a plusieurs poèmes qui sont publiés, qui sont des revues de carnaval. On voit arriver un personnage et puis l'autre, chacun s'exprimant dans sa langue, avec toutes sortes de plaisanteries habituelles en temps de carnaval.
Et donc, pour terminer, sur le baron de Caravette, vous aimeriez dire quoi ?
Ah oui, il a une façon poétique, personnelle, de traiter dans un poème... satirique de traiter le thème de Caravette. Bon, c'est un bois, hein, on l'a dit, c'est un bois plein d'épines et tout à fait aride. Et alors, il fait une sorte d'utopie, de petite utopie. Caravette est devenu un lieu où la vie est moins chère, où tout est accessible, toutes les denrées sont accessibles à tous. C'est un lieu fertile, un verger avec des orangers où les ânes au lieu d'aigo doules, beuran de limunado, et pour taranadu per cargo et per coudus, de brancos d'irangier, en lufruch et las flus.
Au lieu donc de
l'eau du
Lez,
donc les ânes, au lieu de l'eau du Lez, boiront de la limonade, et porteront donc, pour charge et pour fardeau, des branches d'oranger avec le fruit et les fleurs.
Merci pour cette belle image d'âne s'abreuvant de limonade et portant des branches d'oranger.
Dans le Lez.
Oui, oh là. Merci. Donc, c'était donc une présentation des œuvres d'un baron de Caravette, Jacques Roudil, édité par Claire Toreille, aux Presses universitaires de la Méditerranée à Montpellier.